Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la fête du Saint-Esprit. Souvent, le moment de la Pentecôte, c'est un moment où on demande beaucoup de choses au Saint-Esprit. Moi, j'ai vraiment à cœur de le remercier. De le remercier pour sa présence, pour qui il est, notre consolateur, celui qui est toujours avec nous. Celui qui prend de ce qui est à Jésus et qui nous l'applique. Est-ce que nous nous rendons compte que nous ne pourrions rien expérimenter de tout ce que Jésus a accompli pour nous en venant sur la terre, si le Saint-Esprit n'était pas venu prendre de ce qui est à lui pour nous le donner? Et il n'a pas fait ça qu'une fois, il fait ça constamment. Il prend des richesses de ce que Jésus est et de ce que Jésus a accompli, et il nous les transmet, il nous les annonce, il nous les communique, et comme mon épouse disait, même pendant qu'on dort, il continue son travail. Le Saint-Esprit est vraiment notre meilleur ami. Toujours présent, il manifeste la présence de Jésus avec nous tous les jours. Alors que Jésus est absent, il est au ciel, mais il ne nous a pas laissés seuls, il nous a envoyé son Esprit, le Saint-Esprit, qui rend réelle la présence de Jésus à nos côtés, jour et nuit. Et vous savez, il prie même à l'intérieur de nous, constamment. Il prie pour nous et il prie pour les autres au travers de nous. Mais qu'est-ce qu'on est béni et enrichi par la présence du Saint-Esprit. C'est un trésor que nous avons besoin de découvrir et d'approfondir. Beaucoup d'entre vous, vous savez que je suis un pasteur de tendance charismatique, je crois au don du Saint-Esprit. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, je ne vais pas vous enseigner la théologie pentecôtiste des deux expériences. J'ai remarqué que le thème du Saint-Esprit, c'est un thème qui est très clivant, très, ça provoque des divisions, on va dire, au milieu du corps de Christ. Combien de fois j'ai rencontré des chrétiens qui sont de type charismatique, qui disent à certains autres chrétiens, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Et combien de fois j'ai vu les autres dire à ces premiers, vous n'êtes que dans du sentimentalisme, il n'y a pas de Saint-Esprit dans tout ce que vous faites. Et pour avoir évolué dans les deux milieux, je peux vous dire que l'un et l'autre ont le Saint-Esprit. Mais on ne se comprend plus. On met des accents sur des choses particulières et on ne se rend pas compte que tous ceux et celles qui sont en Jésus-Christ ont reçu le trésor de la présence du Saint-Esprit. Maintenant, c'est un trésor tellement riche qu'il y a des choses dans ce trésor que l'un peut avoir expérimenté et l'autre pas. Mais c'est le même trésor. Dans un grand coffre-fort où il y a plein de trésors, il peut y avoir des rubis, des émeraudes, il peut y avoir des liasses de billets, il peut y avoir des lingots d'or. Et ça dépend de ce à quoi vous prêtez attention. Mais tout est là, dans la présence du Saint-Esprit. Alors ce matin, on va lire deux textes que je pense très complémentaires. On va lire un premier texte très cher à nos amis évangéliques plus traditionnels, le texte qui parle de la nouvelle naissance en Jean 3, les versets 5 à 10. Et puis ensuite, on va lire un texte un peu plus charismatique, un peu plus, on va dire, entre guillemets, mystique, dans 2 Corinthiens 3, les versets 12 à 18. Alors, je vais lire le premier dans la traduction du Semeur, parce que je pense que vraiment ici, c'est une excellente traduction de ce passage. Et le deuxième, on le lira dans la seconde 21. Donc, Jean 3, 5 à 10. « Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus. » À moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Là, c'est là que la semeur, elle a vraiment une excellente traduction. Il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit, Comment cela peut-il se réaliser ? Et Jésus lui dit, « Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela ?» lui répondit Jésus. Et puis 2 Corinthiens 3, les versets 12 à 18. L'apôtre Paul écrit, « Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère. Mais leur intelligence s'est obscurcie. Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Alors ces deux textes ont quelques points communs intéressants. Dans les deux cas, on nous parle de la religion juive. Dans le premier cas, c'est Nicodème. Nicodème était un rabbin, donc un enseignant de la Torah. Il enseignait la parole de Dieu, enfin ce qu'il y avait de la parole de Dieu à cette époque-là. Le Nouveau Testament n'avait pas encore été écrit. Et il était certainement une des personnes les plus cultivées de ce temps. Vous savez, les rabbins, ils étudient beaucoup. Ils passent des décennies à étudier avant de commencer même à prêcher. Donc ce n'était pas un ignorant, ce n'était pas le dernier des idiots, c'était quelqu'un de savant dans les Écritures. Mais il était obscurci. Il ignorait tout des choses du Saint-Esprit. Et Jésus s'étonne que cet enseignant d'Israël, ce pasteur, entre guillemets, du peuple de Dieu, soit tellement ignorant par rapport aux réalités spirituelles. « Toi qui es docteur d'Israël, tu ignores ces choses !» lui dit Jésus. Il ne comprenait rien à la vie de l'Esprit. Dans le second cas, avec Paul, on a affaire aux Israélites en général. On dit que quand ils lisent l'Ancien Testament, ils sont obscurcis parce qu'ils n'ont pas encore reçu une révélation du Saint-Esprit que nous expérimentons dans la relation avec Jésus. Voyez ici, dans les deux textes, on nous parle d'ignorance. On peut connaître la Bible. On peut prier beaucoup. On peut même être fidèle le plus possible au commandement de Dieu. On peut avoir la foi, mais ignorer presque tout de la vie spirituelle. Ce n'est pas comme si ce Nicodème ou les Israélites étaient dans une mauvaise religion. Ils n'étaient pas hindous, ils n'étaient pas taoïstes. Ils étaient dans la foi biblique au vrai Dieu. Et pourtant, ils ignoraient quelque chose que beaucoup de leurs compatriotes avaient vécu dans le passé. Pensez aux prophètes d'autrefois, pensez au roi David qui vivait une expérience avec le Saint-Esprit. Mais ces hommes-ci étaient obscurcis. Quand l'apôtre Paul va commencer à expliquer les choses du Saint-Esprit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens 12, au verset 1er, il va dire aux Corinthiens, qui, entre parenthèses, étaient une église vraiment très charismatique, puisque Paul va même dire qu'il ne leur manque aucun don, il va leur dire, « En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. » Alors peut-être que dans votre traduction, il est dit « en ce qui concerne les dons spirituels », mais en fait le mot « don » n'est pas dans le texte, c'est juste l'adjectif « spirituel ». Et donc c'est une très belle traduction que je vous lis ici dans la seconde 21, 1 Corinthiens 12, 1. « En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. » Il est en train de parler à des chrétiens. On peut être chrétien, comme les Corinthiens. Et même pour tous mes amis pentecôtistes et charismatiques qui nous écoutent sur Internet, on peut être aussi charismatique que les Corinthiens et être passablement ignorant par rapport aux réalités spirituelles. Apparemment, les Corinthiens n'avaient pas tout compris. Comme Nicodème, comme les Israélites, il leur manquait encore une révélation de la relation avec le Saint-Esprit. Vous savez, j'ai un ministère itinérant, et j'avais, maintenant ça fait un bon moment que je ne l'ai plus, il me manque celui-là, mais j'ai visité beaucoup d'églises différentes. Moi je vais partout où on m'invite, là où Jésus est adoré, j'y vais. Si c'est autre chose que Jésus, j'y vais pas, mais tant que ce sont des chrétiens, j'y vais. Donc j'ai vu des chrétiens de toutes sortes, et j'ai rencontré énormément de chrétiens qui sont vraiment fervents, qui aiment Dieu de tout leur cœur, qui lisent la parole et qui prient, mais qui semblent ignorer presque tout des choses du Saint-Esprit. C'est étonnant comment on peut avoir reçu ce trésor si immense dans notre vie qu'est la présence du Saint-Esprit, et pourtant nous en ignorons beaucoup de choses, et nous avons besoin de l'approfondir. Ce n'est pas qu'il n'est pas là, mais c'est que ce trésor est peut-être tellement enterré et qu'on n'a pas passé du temps à le découvrir, parce que quelque part, dans notre foi évangélique, on accorde énormément de place au Père, on accorde énormément de place à Jésus, mais on accorde peu de place au Saint-Esprit. Un jour par an, le jour de la Pentecôte, on lui fait la fête. Voyez, on a vraiment besoin d'approfondir notre vie dans l'Esprit. Ça me fait penser à deux scènes dans le livre des Actes. Dans les Actes, au chapitre 8, on voit Philippe, le diacre, comme on dit, hein, c'était un évangéliste, Philippe. Il descend à Samarie et il y prêche l'évangile et il y a des miracles qui se passent, toutes sortes de choses se passent, à tel point que les foules se convertissent, elles mettent leur foi en Jésus, elles sont baptisées, il y a même un sorcier là qui se repent et qui se convertit, hein, et qui est baptisé et qui suit Philippe partout, parce qu'il a entendu l'évangile. Mais ce n'est que quand l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean descendent à Samarie et leur imposent les mains, que tout à coup, ils reçoivent quelque chose qu'ils n'avaient pas reçu ou qu'ils n'avaient pas compris complètement auparavant. Ça me fait penser à cette autre scène dans le livre des Actes, dans les Actes au chapitre 19, le groupe des Éphésiens que l'apôtre Paul rencontre à un moment donné. Et Paul leur dit, mais vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? Et ils répondent, mais on ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Et alors, Paul leur dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisés donc ? Ben, nous avons été baptisés du baptême de Jean. Ah, ok. Donc en fait, c'était des disciples de Jésus qui n'avaient subi que le baptême de Jean-Baptiste, et ils n'avaient pas été baptisés du baptême chrétien, et ils ne savaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Est-ce que vous vous rendez compte que ils avaient été insuffisamment évangélisés? On leur avait dit qu'une partie de la bonne nouvelle. Jésus est venu, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, il est ressuscité, il est monté au ciel, et maintenant on se tourne les pouces jusqu'à ce qu'il revienne. Mais on a oublié tout le pan suivant de l'évangile, qui est que dans le ciel, Jésus a reçu du Père la plénitude du Saint-Esprit. Et il est celui qui nous baptise d'Esprit Saint et de feu. Jésus a un ministère que l'on ignore souvent. C'est le ministère de baptiser d'Esprit Saint. Ce n'est pas le ministère des pasteurs, c'est le ministère de Jésus. Jésus est celui qui nous baptise d'Esprit Saint et de feu. Maintenant, nous vivons tous cela un peu différemment. Peut-être que vous êtes comme moi, et le jour de votre conversion, tout est arrivé d'un coup. Le jour où vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez été rempli de la puissance de Dieu et vos dons spirituels sont apparus et vous avez commencé à servir tout de suite. C'est ce qui s'est passé quand, à 19 ans, je revenais au Seigneur après des années où je vivais vraiment mal, loin de lui. Et un évangéliste américain m'a conduit dans la repentance et il a prié pour moi. Et la puissance du Saint-Esprit est descendue sur moi dans cette petite église de Charleroi-Nord, pas très loin d'ici. À l'époque, c'était le pasteur Manga Gédéon qui était temporairement là. Et il avait invité un pasteur américain, un évangéliste américain. Et je comprenais absolument rien à tout ce qui se passait. Mais tout est arrivé d'un coup. D'ailleurs, ce jour-là, j'ai même commencé à prêcher, puisqu'il n'y avait pas de traducteur dans la salle, et j'étais le seul qui parlait anglais. Et donc, on m'a demandé de me tenir là. J'étais vraiment converti de 3 secondes, et je devais déjà prêcher l'évangile que je ne connaissais pas. Et j'ai traduit comme un pied, je peux vous le dire. Je n'avais rien compris à la traduction. Au lieu de parler à la première personne du singulier comme l'orateur, je disais tout le temps « il dit que, il dit que, il dit que ». Et les gens me regardaient, ils disaient « mais parle, dis la même chose que lui ». Je ne comprenais rien du tout, j'étais dans un autre monde. L'espace d'un week-end, j'avais l'impression d'être sur une autre planète, parce que j'ai passé un week-end ivre du Saint-Esprit. Je ne savais plus comment je m'appelais, et ce qui m'arrivait, ma vie a été complètement chamboulée. Peut-être que vous n'avez pas vécu ça. Peut-être que vous, c'est par petits incréments, progressivement, au travers des années, à tel point que vous ne vous en rendez même pas compte, comme la grenouille que l'on met dans de l'eau, que l'on fait bouillir, et qui ne se rend même pas compte que l'eau commence à cuire, l'eau commence à bouillir. Et donc, tu ne te rends pas compte que tu es en train de grandir dans le feu. Beaucoup de chrétiens ont des expériences différentes. Beaucoup de chrétiens ne pourraient pas se comparer aux autres. Et la pire chose que l'on puisse faire, c'est de comparer notre expérience avec celle du voisin. Imaginez maintenant que je vous dise, si vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu en 1996, vous n'avez pas le Saint-Esprit et vous n'êtes pas des enfants de Dieu. Ça serait passablement orgueilleux de ma part et très égocentrique. Je pense que je suis la norme. Si on tourne les yeux vers la nature, on va voir que Dieu ne fait pas 2 choses pareilles. Regardez vos visages. Ils sont tous différents. Regardez les arbres, il n'y en a pas 2 identiques. Regardez les nuages, ils sont tous différents. Pourquoi voulez-vous que l'expérience chrétienne des uns et des autres soit rigoureusement identique ? Je me souviens d'une fois, dans notre église, où le Seigneur avait rempli du Saint-Esprit quelqu'un qui n'avait pas encore été baptisé d'eau. Et il y avait quelqu'un dans notre église qui était fâché. Parce que dans sa tête, il faut croire à Jésus, le recevoir comme son Sauveur et Seigneur. Ensuite, on est baptisé d'eau. Ensuite, le Saint-Esprit vient sur nous. Parce qu'il avait toute une liste à cocher des étapes de la conversion. Et la personne n'avait même pas encore reçu Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Et le Saint-Esprit était descendu sur cette personne, elle était remplie de l'Esprit de Dieu, et elle ne comprenait rien à ce qui lui arrivait, et le chrétien était choqué. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il veut. Je connais le Saint-Esprit depuis que j'ai 4 ans. Je connais Jésus depuis que j'ai 19 ans. Allez expliquer ça. Quand j'étais petit garçon, je vivais dans une famille très dysfonctionnelle. J'étais battu par mon père. Il y avait beaucoup de choses mauvaises qui se passaient dans la maison, que je ne vais pas passer du temps à décrire maintenant. Mais j'avais des cauchemars presque toutes les nuits. Et je me sentais très tourmenté. Mais il y avait quelque chose, ou plutôt il y avait quelqu'un, qui venait me soulager et mettre de la paix dans mon cœur. C'était comme une vague qui descendait du ciel et qui m'apaisait, qui me disait « Là, là, tout va bien, tout va bien. » Et je me sentais tellement bien, juste après avoir eu mes cauchemars. Il y avait une présence douce, suave, réconfortante, pleine de paix, qui me calmait. Et je ne savais pas qu'est-ce que c'était, mais je l'aimais beaucoup, cette présence. Et puis à 13 ans, cette présence, quand mon père nous a abandonnés, on vivait en Afrique, elle est venue sur moi dans l'église. Et j'ai pleuré, et je ne comprenais pas ce qui se passait. Et puis, j'ai tout abandonné, vous savez, je me suis éloigné de Dieu. Et à 19 ans, pendant que j'étais en train de faire du kung-fu dans une école traditionnelle de kung-fu, où on se prosternait devant des statues d'idoles chinoises, dont un dragon rouge, cette présence est descendue dans la salle où j'étais en train de m'entraîner. Et j'ai reconnu la présence. Depuis que j'avais 4 ans, elle avait toujours régulièrement, elle était toujours régulièrement venue me réconforter. Et elle est descendue dans cette salle de kung-fu. Sauf que cette fois-là, elle m'a parlé et elle m'a dit « Christophe, ce que tu fais ici, c'est de l'idolâtrie. Sors maintenant. » Et vous savez, la première chose qui m'est venue, c'est « Mais je connais cette présence. » C'est comme quand vous avez déjà senti un parfum. Et que vous retrouvez un parfum, plus tard vous dites « Ah, je reconnais, ça c'est tel et tel parfum de Givenchy ». Vous savez, on a une mémoire olfactive. Mais on a aussi une mémoire spirituelle, parce que le Saint-Esprit, il y a quelque chose dans sa présence que vous allez toujours reconnaître. Je l'ai reconnu, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait dans cet endroit-ci? Parce que ce n'est vraiment pas un endroit pour toi, Seigneur. Et vous savez ce que le Saint-Esprit a fait? Il m'a conduit à Jésus. Il m'a conduit à la Bible. Il m'a conduit à l'église de Charleroi-Nord, parce que j'étais trop gêné à cette époque-là de retourner à Courcelles, que j'avais abandonné depuis des années. Et j'avais peur que le pasteur Jacques Lemaire, qui nous regarde ce matin, me tape sur les doigts. Et donc je suis allé chez un ami du pasteur Jacques Lemaire, mon gars, en me disant « je vais retourner à Dieu, mais en catimini ». Le Saint-Esprit m'a dit que je devais aller à l'église. Il m'a dit que je devais aller à Courcelles, entre parenthèses, mais je n'ai pas écouté. Je suis allé à Charleroi-Nord. Il savait bien que j'allais faire ça. Le Saint-Esprit, que je connaissais depuis que j'ai 4 ans, m'a conduit à Jésus. Et vous savez ce qui s'est passé? Jésus m'a fait rencontrer le Saint-Esprit. C'est très étrange. Le Saint-Esprit m'a fait rencontrer Jésus et Jésus m'a fait rencontrer le Saint-Esprit. Ce n'est que quand Jésus est venu dans ma vie et que j'ai eu la vie éternelle et que mes péchés ont été pardonnés, que Jésus m'a montré que celui qui m'accompagnait depuis que j'étais petit et qui me protégeait de toutes mes stupidités, parce que je pourrais vous en raconter pendant des heures, c'était le Saint-Esprit dont on parle dans les Écritures. Le Saint-Esprit m'a conduit à Jésus, Jésus m'a conduit au Saint-Esprit en me disant, voilà, maintenant, moi je suis au ciel, je suis allé vous préparer une place, mais je ne t'ai pas laissé tout seul, apprends à connaître l'Esprit-Saint. C'est l'autre consolateur, celui qui remplace mon absence, qui comble mon absence et qui est là pour concrétiser, pour réaliser ma présence avec toi. Et je me suis dit alors, mais Seigneur, tu as donc toujours été là, même avant que je ne te connaisse, même avant que je ne sache ce que c'était cette douce présence qui venait de temps en temps. Ça, c'est mon parcours. Si ça ne ressemble pas au vôtre, ça ne veut rien dire. Dieu fait avec chacun ce qu'il veut, dans l'ordre qu'il veut, comme il veut, avec les étapes qu'il veut, qui durent autant de temps qu'il veut. Il peut faire tout d'un coup en 5 secondes, ou il peut l'espacer sur 30 ans. Ça ne change rien. Dieu est un Dieu souverain et il fait exactement ce qu'il veut. Alors s'il vous plaît, laissez-moi clarifier. Si vous n'avez pas vécu de grandes expériences spirituelles où vous avez des révélations et des visions ou que tout à coup des dons spirituels se sont manifestés dans votre vie, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Il n'est pas possible d'être chrétien sans avoir reçu le Saint-Esprit, parce que être chrétien, c'est être né de nouveau, ou comme Jean dit ici, être rené d'en haut. Régénérer, c'est forcément le Saint-Esprit qui opère et qui fait cela. Mais maintenant que nous avons reçu l'Esprit de Dieu, maintenant que nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, est-ce que ça signifie que nous avons épuisé ce trésor? Est-ce que ça signifie qu'il n'y a rien à y découvrir encore? Est-ce que ça signifie qu'on ne peut pas être rempli et rempli et rempli et rempli encore? Lisez le livre des Actes et vous verrez. Il ne cesse d'être renouvelé, d'être rempli encore et encore dans le Saint-Esprit. Dieu fait comme il veut, quand il veut, avec chacun. Il fait habiter son esprit en nous pour nous donner la vie éternelle. Mais j'ai vu dans la vie de beaucoup de chrétiens qu'à un moment donné, quand il ne s'agit plus simplement de les sauver, mais de les équiper pour les envoyer dans l'œuvre de Dieu, il y a quelque chose qui se passe qui a un rapport avec la puissance du Saint-Esprit. C'est comme si tout à coup la puissance du Saint-Esprit commence à se manifester pour nous rendre utiles pour les autres. Et c'est pour ça que j'utilise toujours cette formule. Le Saint-Esprit habite en moi pour moi, mais il repose sur moi pour vous. Je laisse cogiter, je sais que c'est tôt encore. Le Saint-Esprit habite en moi pour moi, mais il repose sur moi pour vous. On a besoin d'avoir une manifestation de sa puissance dans nos vies, si nous voulons le servir. Alors, à cause de ça, à cause de ces degrés, à cause de ces différentes expériences qui se passent différemment chez chacun, Nos églises sont clivées, sont séparées en toutes sortes de théologies bizarres. Mais je peux vous dire, dans les églises pentecôtistes charismatiques, il y a plein de chrétiens frustrés. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ça fait 20 ans qu'ils sont dans cette église. On a prié pour eux 200 fois, 2000 fois, et ils ne parlent toujours pas en langue. Et ils pensent qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et ils souffrent. Et j'ai souvent eu vraiment le bonheur de pouvoir leur dire « Non, c'est pas parce que tu n'as pas vécu telle petite expérience qu'un autre a vécu que forcément ça veut dire que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. » Parce qu'il fait les choses comme il le désire. Alors, s'il vous plaît, arrêtez de vous comparer aux autres. En vous comparant aux autres, vous allez retarder votre avancement dans les choses de Dieu, parce que Dieu ne fait pas les choses dans le même ordre pour chacun. Il fait ce qu'il veut et il n'est pas obligé de donner tous les dons à tout le monde. Je connais un serviteur de Dieu qui est dans le ministère prophétique, très très bon d'ailleurs, qui est un ministère itinérant et qui ne parle pas en langue. Tous les charismatiques et les pentecôtistes sur Internet sont en train de s'arracher les cheveux. Comment veux-tu qu'il soit rempli du Saint-Esprit s'il ne parle pas en langue ? Ben oui, le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, avec qui il veut, comme il veut. Qui sommes-nous pour dire au Saint-Esprit ce qu'il doit faire ou ne peut pas faire ? Il est libre comme l'air, il souffle où il veut et nous devons le respecter. Néanmoins, je pense que ce que le Seigneur veut que nous fassions, c'est d'honorer le Saint-Esprit comme Dieu, parce qu'il est Dieu, au même titre que le Père et le Fils. Le Saint-Esprit est Dieu. Et nous devons apprendre, chacun là où nous sommes arrivés dans nos vies, à lui faire de la place. Nous l'avons reçu, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Mais bien souvent, il est comme à l'étroit à l'intérieur de nous, parce que nous sommes tellement rongés par l'inquiétude, nous sommes stressés, nous avons peur, nous voulons contrôler. Vous savez, j'ai remarqué que souvent, ce qui empêche le Saint-Esprit de se manifester dans les églises, c'est la peur du « quand dira-t-on ». On a peur de ce que le voisin va penser de nous si on fait ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Et alors, on est tous, vous savez, des moutons de Panurge. Vous vous souvenez, c'est quoi les moutons de Panurge dans la mythologie ? C'est le premier mouton, il se jette dans la mer et tous les autres moutons suivent. On a tendance à avoir cet instinct grégaire. Et donc, dans une église, il y a une culture en place. Ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Malheur à vous si vous faites quelque chose qui n'est pas en accord parfait avec la culture de cette église. Parce que vous allez avoir l'air bizarre et les gens vont vous regarder. Donc on a tendance à s'assimiler à la culture de l'église et le Saint-Esprit qui est en train de te dire « fais quelque chose » mais qui ne se fait pas dans cette église, vous allez rester là et vous allez regarder « mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» Vous savez, il y a des églises où il est interdit de lever les mains pendant qu'on prie. Oui, oui, j'en connais. C'est interdit. Pourtant, la Bible, elle dit « lever les mains », mais on ne peut pas lever les mains. La personne qui est remplie de Dieu et qui veut adorer Dieu et que Dieu lui dit « lève les mains, des mains pures vers moi pendant que tu pries », elle va regarder à gauche, elle va regarder à droite, elle va s'imaginer « est-ce que tout le monde me regarde ? Est-ce qu'ils ont les yeux fermés ?» Et elle ne va pas oser, on a peur du regard des autres. Une fois, j'étais à Paris avec quelques-uns de mon église. On visitait une église protestante dans le centre de Paris qui s'appelle le Temple de Paris. Et c'était une église, comment je vais dire, à l'époque en tout cas, je ne sais pas ce qu'elle est devenue maintenant, mais exubérante comme pas deux. À un niveau d'exubérance que j'ai déjà tout vu, mais là j'étais quand même passablement inquiet, embêté. Et je me suis rendu compte que là, le « quand dira-t-on » jouait à l'envers. Parce que moi, je suis quelqu'un de plutôt réservé et de calme. J'avais l'air d'un idiot au milieu de ces sauvages. Ils étaient exubérants, mais à un niveau que je me disais, mais bon, moi, ici, c'est le cirque. Hein. Et pourtant, c'était aussi des enfants de Dieu qui aimaient Jésus de tout leur cœur. Ils avaient une expression, une culture d'église différente. Et je me suis retrouvé en train de les juger et d'être un hypocrite. Pour ne pas qu'on me regarde de travers, je faisais semblant d'être comme eux. Avec modération, juste ce qu'il faut pour ne pas avoir l'air bizarre. Et donc, je bougeais un peu plus que d'habitude, je faisais un peu plus de bruit que d'habitude, pour, vous savez, me camoufler. Mais on avait avec nous, il est certainement en train de nous regarder ce matin, un ami qui, lui, était certainement beaucoup plus intègre et authentique que moi. Lui, il ne voulait pas être assimilé. Il était là, et il ne bougeait pas, et il ne chantait pas. Erreur fatale. Les gens l'ont remarqué, parce qu'on voyait bien que lui, il n'était pas dans le coup. Ils ont bondi sur lui à une dizaine pour prier pour lui, pour le faire entrer dans le même genre de choses qui se passaient là-bas. Et lui, il était tout rouge, comme ça. Et il priait, Seigneur, vivement que ça s'arrête, Seigneur, fais que ça s'arrête, fais que ça s'arrête. Enfin, je ne sais pas s'il priait ça, mais il avait vraiment l'air très embêté. Et nous, on rigolait comme des baleines, parce que nous, on avait été assez hypocrites pour faire semblant qu'on était comme eux, et ils nous laissaient tranquilles. Est-ce que ce n'est pas ridicule, notre manière d'agir? Est-ce qu'on ne peut pas libérer les uns et les autres pour être exactement ce qu'ils sont avec Dieu? Et si Élise, elle a envie de pousser des youyou et de sauter sur place, mais que Laurent, il est contemplatif et profond, et il adore Dieu en esprit, en vérité. Pourquoi devons-nous comparer l'un à l'autre? Je dis ça, mais c'est au hasard. Hein. Pourquoi devons-nous comparer l'un à l'autre? Pourquoi ne pouvons-nous pas permettre aux uns et aux autres d'être ce qu'ils sont? Car là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Il devrait y avoir de la liberté. Notre religion chrétienne, elle est trop marquée par le conformisme. Je connais une église américaine où quand tout le monde prie, ils lèvent les mains comme s'ils avaient marqué un goal dans le football américain. Pas comme ça, hein, attention, hein, c'est comme ça. Et quand ils prient, je me dis, mais pourquoi ils ont tous les mains levées comme ça? Et puis j'ai regardé le pasteur et je me suis rendu compte, c'est le pasteur que quand il prie, il lève les mains comme ça, comme s'il avait marqué un goal au football américain. Et tout le monde dans l'église, quand il prie, il lève les mains en goal de football américain. Et je me suis dit, mais ça, c'est du conformisme. Et puis je suis rentré chez nous et j'ai remarqué, parce que moi, quand je prie, ben moi j'ai tendance à lever les mains comme ça. Et puis, quand c'est vraiment bon et que j'aime bien, je me dandine un petit peu comme ça, comme un métronome. Enfin. Et j'ai regardé les jeunes de notre église et je me suis dit, mais ils sont tous en train de faire ça aussi. Et je me suis dit, non, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans notre religion. On imite les autres, et parce qu'on n'a pas ce que les autres ont, on pense qu'on est moins spirituel. Et c'est justement en imitant et en se comparant qu'on réduit notre richesse personnelle. C'est le même esprit qui nous habite tous, mais qui se manifeste différemment, et on doit laisser les uns et les autres être libres d'être ce qu'ils sont et d'expérimenter la puissance de Dieu à leur façon. Un autre truc que j'ai remarqué dans les églises, aujourd'hui je vous fais un petit peu le topo hein, du monde, c'est qu'il y a des églises qui croient que la spiritualité, c'est tout ce qui est intellectualisé. Et les autres églises qui croient que la spiritualité, c'est tout ce qui est émotionnel. J'ai vu les deux. Alors, dans les églises très intellectuelles, on connaît bien les Écritures, on prêche avec méthode, avec rigueur, on n'est pas très démonstratif. Quand on évangélise, c'est de l'apologétique en quatre points, voilà, rigoureux, imparable, très intellectuel. On va très profond dans l'enseignement. Et de l'autre côté, eh bien, souvent on va nous encourager, mais laisse de côté l'intellect bloque, il faut laisser le Saint-Esprit être libre, soi-disant, mais en fait, ce qu'on fait, c'est faire mousser les émotions. Et j'ai vu beaucoup d'églises comme ça, c'est très à la mode maintenant, où on manipule la lumière, le son, les intonations, et on prêche pour produire des effets. Et puis on crie pour... Et alors les gens sont emballés. Et quand j'analyse la prédication qui a été faite, je me dis, mais il n'y a rien dans cette prédication. Mais qu'est-ce qu'il y avait d'émotion là-dedans, hein? Et quand on est pris dans l'émotionnel avec eux. Parce qu'il y a une manipulation des émotions qui se passe. Et les uns et les autres se jugent. Les intellectuels disent ça, ce n'est que de l'émotionnel. Les émotionnels disent ça, ce n'est que de l'intellectuel, de l'intellectualisme. Et vous savez quoi? Ils ont tous les deux raison, mais ils ont tous les deux tort. Parce que le spirituel, ce n'est pas, ça ne peut pas être réduit à l'intellectuel, et le spirituel ne peut pas être réduit à l'émotionnel. Il se fait que chacun de nous, on est les uns plus intellectuels, ou on a une expérience de Dieu plus intellectuelle, et d'autres ont une expérience de Dieu qui a beaucoup plus d'émotions dedans. On a des tempéraments différents. Et forcément, quand le Saint-Esprit remplit nos vies, ben, si je suis quelqu'un de très intellectuel, eh bien, je vais être très introverti, très calme. Et je vais vous expliquer des choses profondes que j'ai comprises dans la présence de Dieu. Si je suis quelqu'un qui est plus émotionnel, ben, quand le Saint-Esprit me remplit, vous pensez, je vais rire, je vais pleurer. Je n'arriverai pas à aligner deux mots sans qu'il y ait une larme qui coule sur ma joue. Est-ce que l'un est supérieur à l'autre ? Non ! C'est bien, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, c'est-à-dire avec tout ton être et toutes les dimensions qui te composent. Mais évidemment, il ne va pas faire abstraction de ton tempérament. Il va remplir ton tempérament de puissance et ce qui va se manifester, c'est la beauté de Dieu au travers de qui tu es. Et donc il ne faut jamais, jamais, jamais juger quelqu'un d'autre parce que son expérience est différente de la nôtre. C'est Dieu qui nous a créés comme nous sommes. Et on a besoin de se dire peut-être que j'ai quelque chose à apprendre de celui-là qui est différent de moi. Parce que sinon ce qui va se passer c'est que, imaginez que dans notre église, on impose une culture émotionnelle. Les gens émotionnels vont venir de partout pour rejoindre notre église, et plus les gens émotionnels vont venir ici, plus on aura l'impression que c'est la seule vérité, la seule façon de manifester les choses devant Dieu, et on va évidemment exclure les intellectuels, les introvertis et tout ça. Et dans l'autre milieu, on va exclure les émotifs, parce que c'est charnel, ça c'est purement humain, ce ne sont que des émotions, c'est du sentimentalisme. Et on va rassembler autour de nous que des gens intellectuels. Mais une église riche, c'est une église où toutes les différentes sensibilités peuvent se manifester ensemble. Et on a besoin de nos intellos. Et on a aussi besoin de nos sentimentaux. Pourvu que nous comprenions que ce qui est spirituel, il est au-delà de l'intellectuel et de l'émotionnel. Et c'est ça, c'est là que le bât blesse. Parce que nous connaissons tellement peu le Saint-Esprit, nous réduisons le Saint-Esprit à l'intellectuel ou à l'émotionnel, et nous ne nous rendons pas compte que l'expérience du Saint-Esprit, elle surpasse l'intellectuel, elle surpasse l'émotionnel. Un jour, j'ai écouté le grand enseignant de la parole de Dieu qui s'appelle John MacArthur, que tous les étudiants à l'école biblique certainement connaissent, qui a écrit tellement de livres dans sa vie que si je voulais commencer, j'arriverais jamais à atteindre le quart de ce qu'il a fait. Je l'ai entendu dire, moi, je pense qu'on devrait supprimer la musique de nos cultes. Parce que la musique suscite des émotions, et tout ça, c'est charnel. On n'a pas besoin de ça dans le culte que nous rendons à Dieu. Forcément, on a compris de quelle tendance il est. Il est intellectuel. Mais est-ce que ça veut dire que parce que c'est émotionnel, c'est forcément diabolique ? Et de l'autre côté, est-ce que c'est parce que c'est intellectuel que c'est forcément diabolique ? Ou est-ce qu'on peut comprendre que ce sont des choses que Dieu veut ? Dieu nous a donné une intelligence, Dieu nous a donné des émotions. Et pourvu que la limite soit bien posée pour que la liberté des uns n'empêche pas la liberté des autres, hein, parce que si maintenant Élise veut... Je te prends à partie aujourd'hui, Élise, désolé. Elle est tellement emballée qu'elle met des baffes à la personne à côté d'elle. On a compris que la limite, elle a été atteinte. Ou si elle crie tellement fort, tellement la gloire de Dieu est grande, que la personne à sa droite est devenue sourde, on entre doucement dans un problème là. Mais Dieu désire que chacun de ses enfants se sente libre et qu'on arrête de se comparer les uns aux autres. Bien sûr, si le spirituel se manifeste, si le Saint-Esprit se manifeste dans notre vie, ça aura des répercussions intellectuelles et ça aura des répercussions émotionnelles. Je peux vous dire souvent, quand le Saint-Esprit touche mon cœur, je pleure. Je suis un chrétien qui pleure. Mais comme je suis belge, Eh bien, je le fais rarement en public. Il faut vraiment que ce soit fort. Si un jour vous me voyez pleurer en prêchant ou en priant, c'est vraiment que c'est fort. Mais dans ma chambre de prière, je peux vous dire que souvent je pleure devant Dieu. Souvent. Quand le Saint-Esprit touche mon cœur, la première émotion qui monte à la surface, c'est les larmes. Je pleure. Je ne sais pas pourquoi, je ne le fais pas exprès. Il y a des jours où je ris. Je suis tellement heureux que je ris. Ça fait partie de qui je suis. Et j'en ai pas honte. Et si quelqu'un ne vit pas ce que je vis, je ne le juge pas. Et j'espère qu'on ne me juge pas non plus quand je vis ce que moi je vis. Parce qu'on doit être dans une culture de respect où les uns et les autres peuvent exister, être qui ils sont. Pourvu que nous comprenions, je disais, que le spirituel, il est au-delà de l'intellectuel, il est au-delà de l'émotionnel. En lui, nous avons la vie et le mouvement et l'être. C'est là que le spirituel se trouve. Dans la vie, dans le mouvement et dans l'être. Et si je vis quelque chose avec Dieu, et si dans le mouvement de ma vie, je vis quelque chose avec Dieu, et si au niveau de l'être, comme on dirait en théologie, au niveau ontologique, au niveau de l'être, j'expérimente quelque chose avec Dieu, ça aura forcément des répercussions intellectuelles et émotionnelles. Et ce n'est pas grave, la coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ne prêtons pas tant d'attention au débordement de la coupe. L'important, c'est l'huile qui coule sur la tête. Disons le psaume 23. Hein. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je vais déborder de ce qui me remplit le plus. Et ce n'est pas grave. Et c'est bien comme ça. On a besoin de ne pas être conduit par le qu'en dira-t-on, par le regard des autres, par la culture de notre église locale. On a besoin, chacun de nous, d'être conduit par le Saint-Esprit. Car les fils de Dieu, dit Paul, sont conduits par l'Esprit de Dieu. Pas par l'intelligence et les émotions, pas par la culture d'église. Le Saint-Esprit, il est quelqu'un de vraiment libre et de déconcertant. Chaque fois que je pense que je l'ai mis en boîte, il m'échappe. Chaque fois que je pense que j'ai compris comment il fonctionne et comment on travaille avec lui, il me déconcerte. Le Saint-Esprit est quelqu'un que l'on ne peut pas contrôler. Jésus disait, il est comme le vent qui souffle où il veut. Vous avez vu le vent? Essayez de l'attraper avec votre poing. Prenez une boîte, attrapez un peu de vent et mettez le couvercle. Est-ce que le vent souffle encore dans votre boîte? C'est terminé. Dès qu'on pense qu'on a capté, qu'on a saisi, qu'on a réussi à instrumentaliser le Saint-Esprit, il n'y est plus, parce que le Saint-Esprit dans la Trinité, il représente la souveraineté, l'imprévisibilité, la spontanéité de Dieu qui ne fait que ce qu'il veut. Il ne suit pas nos programmes, il ne suit pas nos ordres de cantique, il ne suit pas les thèmes de notre prédication, il s'en fiche pas mal des notes que j'ai sur ma tablette ici. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut, il touche qui il veut, quand il veut, comme il veut, et il déteste que l'on le mette en boîte. Et vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que si nous rencontrons le Saint-Esprit et nous approfondissons notre relation avec lui, nous allons aussi devenir comme ça. Jésus dit dans Jean 3,8, « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. » Et puis il dit, « Il en est ainsi pour quiconque est né de l'Esprit. » Ah, ce n'est pas que le Saint-Esprit qui devient libre et déconcertant. Ceux qui sont nés de l'Esprit, qui se laissent conduire par l'Esprit, ils vont avoir un style de vie libre et déconcertant. Je n'aime pas ça, moi. J'aime bien savoir ce qui va se passer, comme la plupart des gens sur cette planète. Mais j'ai appris qu'il faut laisser Dieu être Dieu et le laisser faire ce qu'il veut. Il va t'étonner, il va te surprendre, pourvu que tu acceptes de développer une relation d'amitié avec le Saint-Esprit. Tu vas commencer à recevoir de lui des impulsions, des convictions. Tu vas commencer à avoir l'impression d'être comme un navire et il y a un vent qui remplit tes voiles et tu vas te sentir poussé à aller vers telle chose, telle personne, tel endroit. Le Saint-Esprit, il est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Vous savez, il ne nous conduit pas souvent simplement en nous parlant. Il nous conduit comme on conduit un navire, quand le vent remplit les voiles et on se sent poussé. Je me souviens une fois, j'étais à la librairie chrétienne UOPC à Bruxelles, qui vend de tout, hein, qui vend de tous les types de littérature orthodoxe, catholique, même des trucs qui ne sont même pas chrétiennes. Et j'étais en train, je cherchais une nouvelle Bible en fait. Et tout à coup, je me suis senti poussé par le Saint-Esprit vers un rayon. Mais je n'avais pas envie, c'était rayon littérature orthodoxe. Mais moi, l'église orthodoxe, vous savez. Et de tous les livres qu'il y avait là, il y avait un livre bleu qui a attrapé mon regard, captivé mon regard, et ça parlait du Saint-Esprit. Le titre, c'était « Le Paraclet ». Quand je l'ai ouvert, j'ai vu du grec, de l'hébreu, des petites notes en bas de page avec moi, myope comme je suis, j'allais avoir besoin d'une loupe. Et puis je regarde qui est-ce qui l'a écrit, c'était un drôle de moine orthodoxe, vieux jeu, je me dis, aïe, 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 je laisse ça, je me tourne, et je vais vers les Bibles, et je sentais comme quelque chose qui voulait que j'aille par là. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas envie de lire ce truc-là. Alors je retourne, et puis je... Oh oui, vraiment, il veut que je sois ici. Et je prends ce livre et je regarde le prix. Et vous savez, les livres de théologie, hein, 75 euros direct comme ça. Bon, ah. Je l'achète. Hein, et je rentre à la maison, je le mets sur ma bibliothèque. Je ne le lis pas. Si j'avais commencé à lire l'introduction, j'avais compris tout de suite que c'était indigeste. Alors je l'ai mis sur ma bibliothèque. Chaque fois que je passais devant... Je dis, mais Seigneur, tu veux vraiment que je lise ce livre? Je commence à lire ce livre. Je lis 100 pages. Rien. C'était nul. C'était de la théologie indigeste. Plein de choses que je savais, des choses que je ne comprenais pas. Parce que vous savez, les orthodoxes parlent tellement bien le grec qu'ils ne s'amusent même pas à traduire les phrases qu'ils notent. Alors j'étais là, à me gratter la tête. Et puis tout à coup, après des mois que j'essayais tant bien que mal de lire ce livre, une page. Une page. Qui m'a coûté 75 euros. Il y avait des enseignements sur le paraclet, sur le Saint-Esprit, sur le rôle du Saint-Esprit et la relation du Saint-Esprit avec le croyant. Des choses que je n'avais jamais entendues dans le monde protestant, que je n'avais jamais entendues dans les écoles de théologie, mais qu'il y avait un moine orthodoxe, ermite, qui comprenait mieux que moi. Et cette page-là, elle était... vraiment comme une révélation pour moi. Et ça a ouvert des dimensions dans ma relation avec le Saint-Esprit. Je sens qu'il y en a plusieurs qui vont me demander le livre tout à l'heure, mais je ne vais pas vous le dire. Et je vous assure, cette petite page, elle a transformé ma vie de prière. Et puis la page suivante, c'était à nouveau la mort. Je n'ai même pas terminé le livre, en fin de compte. Il m'a conduit vers un livre pour lire une page à 75 euros. Parce qu'elle allait transformer ma vie. Mais... comment est-ce que c'est possible? Il faut que nous soyons tellement proches du Saint-Esprit que quand il te pousse, tu te rendes compte que quelque chose se passe. Comment est-ce qu'un bateau fait pour être sensible au vent? Il faut lever les voiles. Si un bateau est sur l'océan et il a baissé les voiles, ou pire encore, il a jeté l'ancre, le vent peut souffler tant qu'il veut, vous allez rester plus ou moins sur place. Où il faudra vraiment que ce soit la tempête de l'apôtre Paul dans la Méditerranée pour que quelque chose se passe. On ne fait jamais ça, nous les chrétiens. On néglige notre vie de prière, on est tellement dans une vie de prière intellectuelle où on se ferme à tout ce qui pourrait être expérience avec Dieu. On veut pas ressentir, on veut pas toucher, on veut pas voir. On veut juste, Seigneur, écoute mes pétitions, exauce-les au nom de Jésus. Amen. Voilà. Et on ne s'expose pas au vent, au souffle de l'Esprit de Dieu. Certains vont plus loin, ils ont jeté l'ancre. Si jamais il y a un prédicateur qui parle du Saint-Esprit, je m'enfuis. Je ne viens plus à l'église pendant 6 mois parce que ça me dérange. J'ai peur de ces choses-là. Vous savez ce que nous avons? Nous avons un problème avec le contrôle. Nous aimons tout contrôler. Et nous avons peur, mais nous n'expliquons pas notre peur, mais c'est parce que nous aimons contrôler. Mais le Saint-Esprit, c'est lui qui contrôle. Il ne peut lui-même être contrôlé par personne. Et si nous voulons avoir une relation avec le Saint-Esprit, il faut que nous mettions notre esprit de contrôle sur l'autel du sacrifice et qu'on dise « Seigneur, c'est toi qui es Seigneur, c'est toi qui choisis et tu fais ce que tu veux dans ma vie. » L'apôtre Paul, dans le texte qu'on a lu dans 2 Corinthiens, je vais doucement terminer avec ça, il nous dit quelque chose de très important. Il nous parle de ces Israélites qui ont l'intelligence obscurcie quand ils lisent la Bible. Et il va dire au verset 15 de 2 Corinthiens 3, « Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile couvre les cœurs. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. » Oui, mais je me suis converti au Seigneur il y a 35 ans. Et Paul, il dit, « Or, le Seigneur, c'est Jésus. » C'est ça qu'il dit ici ? Il dit, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et ça me déconcerte. Parce que quand quelqu'un se convertit au Seigneur, oui, j'ai donné ma vie à Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur. Mais ici, il nous dit, mais je ne suis pas en train de parler de ça. Ça, c'est bien. Mais je vous parle de quelque chose d'autre, d'une dimension différente de la relation avec Dieu. Parce que la Trinité est une réalité, Dieu est Père et Fils et Saint-Esprit. Vous devez connaître le Saint-Esprit autant que vous connaissez le Père et le Fils. Sinon, vous connaissez Dieu aux deux tiers, si on peut parler ainsi. Or, le Seigneur dont je vous parle, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous avons besoin, les amis, de vivre une conversion au Saint-Esprit, au même titre que nous avons vécu une conversion à Jésus-Christ. Quoi, tu es en train de nous dire qu'on doit se reconvertir? Je vais dire que on a besoin d'approfondir notre conversion et de nous rendre compte que nous devons faire le même accueil au Saint-Esprit que celui que nous avons fait à Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit, il est l'Esprit du Seigneur, il est l'Esprit de Jésus-Christ qui est avec nous. Et si nous prétendons avoir une relation avec Jésus, mais Jésus, il est au ciel. Eh oh ! Il est loin, il est parti. Et les disciples étaient tout tristes de son absence. Il revient bientôt. Vous devez vivre d'espérance parce que Jésus revient bientôt, il revient sur les nuées. Et quoi, en attendant, on se tourne les pouces ? Il nous a donné la présence de son esprit. Et nous accueillons Jésus, mais nous aimons bien qu'il soit loin. Vous savez, le Jésus dans le ciel, il ne nous dérange pas tellement. Hein. Il prie là-haut. Il règne jusqu'à ce que tous ses ennemis soient sous ses pieds. Continue, Seigneur. Alléluia, Maranatha. Mais le Jésus qui nous dérange quand même, c'est celui qui est trop près de nous. Quand je lis les évangiles et que je vois combien Jésus dérangeait les gens et dérangeait ses propres disciples, il les engueulait souvent, hein, parce que les disciples étaient bouchés aussi. Ils comprenaient rien. Jésus était très dérangeant quand il était présent. Il était plus dérangeant quand il était au ciel. Mais il est gentil, Jésus. Il a pensé à tout. Il nous a envoyé son esprit, le Saint-Esprit, pour continuer à nous déranger. Oui, on a besoin d'être dérangé. On a besoin d'être dérangé parce que les choses de Dieu ne sont pas les choses de l'homme. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Les méthodes de Dieu ne sont pas les méthodes de l'homme. Le Saint-Esprit vient dans ta vie pour déranger et pour te faire sortir de tes ornières, pour te faire sortir des sentiers battus, pour te dire d'aller défricher un champ nouveau. Si tu veux vivre quelque chose de nouveau, il va falloir que tu fasses quelque chose d'autre que ce que tu as fait jusqu'à présent. Parce que si ce que tu faisais jusqu'à présent pouvait obtenir le résultat que Dieu cherche, tu l'aurais déjà depuis longtemps. On a besoin de découvrir le Saint-Esprit. On a besoin de sortir de nos sentiers battus et de lui accorder de la place et de nous adresser à lui comme une personne et de dire « Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, eh bien, comme j'ai accueilli Jésus comme mon Sauveur et Seigneur, je veux accueillir l'Esprit de Jésus aussi, concrètement, et j'accepte que tu me déranges. J'accepte que tu continues de me convaincre de péché, de justice, de jugement. J'accepte que tu me montres tous les points où je comprends rien, où je suis à côté de la plaque, où j'enseigne des sottises. J'accepte que tu me montres là où je suis encore un hypocrite et un faucheton, un mouton de panurge, où je suis dans la religiosité qui ne tourne pas rond. J'accepte, Seigneur, que tu viennes chambouler ma vie de tous les jours que tu me déranges. Dérange-moi, Saint-Esprit, parce que ma vie est courte et je ne veux pas mourir sans avoir fait ce que tu voulais que je fasse sur cette terre. Saint-Esprit, ne me laisse pas dans l'état dans lequel je suis. Continue d'appliquer à ma vie l'œuvre de Jésus-Christ qu'il a accomplie une fois pour toutes à la croix. Je t'ai tellement souvent attristé. Je t'ai tellement souvent résisté. Je t'ai même éteint parfois. Et toi, comme un gentleman, tu patientais avec moi. Mais Saint-Esprit, je me repens de mes péchés et j'accepte ta seigneurie dans ma vie. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté de quoi ? La liberté d'être dévoilé de tous les aveuglements que nous avons quant à nous-mêmes, quant à la parole de Dieu, quant au royaume de Dieu. Nos erreurs théologiques, nos ornières, nos œillères, nos présupposés qui nous empêchent de comprendre même les Écritures saintes. Combien de fois je suis face à la Bible et je ne comprends rien parce que je pense que je comprends, parce qu'un prof de l'université m'avait dit que c'est comme ça qu'on le comprend. Et le Saint-Esprit me dit « Tu ne comprends pas encore ce passage, continue de le lire. » Je me souviens, il y a quelques années, vous savez, j'aime beaucoup l'évangile de Jean, c'est mon évangile favori, mais ce n'était pas le cas avant. Je venais de terminer Jean, et le Saint-Esprit me montre que je dois le relire. Mais moi, je suis le genre de personne qui lit la Bible. Je lis tout le Nouveau Testament, je reviens au début. Je lis tout l'Ancien Testament en même temps et je reviens au début. Et je fais des boucles comme ça dans la Bible depuis plus de 20 ans. Je ne sais pas combien de fois j'ai lu la Bible, mais je n'arrête pas, je suis comme ça, je fais ça comme ça. Mais là, le Saint-Esprit m'a vraiment dérangé. Il faut que tu reprennes Jean au début. Non, mais après Jean, c'est les actes. Hein. Matthieu, Marc, Luc, Jean, actes. Il faut que je lise le livre des actes maintenant. C'est logique, ça va ensemble. Non, tu recommences. Alors je recommence à lire l'évangile de Jean. Et je le lis plus vite parce que je viens de le lire, tout est frais. J'arrive à la fin, tu relis encore l'évangile de Jean. Je dis non, mais alors là, c'est des fantaisies, c'est des sottises. Et vous savez, l'évangile de Jean, c'est un évangile que j'ai beaucoup étudié à la faculté de théologie. On a fait plus d'une année de travail d'exégèse sur l'évangile de Jean. Donc c'est l'évangile que je comprends certainement le mieux de tous les évangiles. Je vais vous dire quelque chose. Mes études théologiques sur l'évangile de Jean m'empêchaient de comprendre l'évangile de Jean tel que le Saint-Esprit voulait me l'enseigner. Et il a fallu que je le lise 4 fois d'affilée pour que les couches de théologie qui étaient dans ma tête commencent à s'ouvrir et à laisser la place à ce que le Saint-Esprit essayait de me dire au travers de l'évangile de Jean. Le Saint-Esprit est notre enseignant. Et je peux vous dire qu'à cette 4e lecture, j'ai senti pendant que je lisais la Bible quelque chose craquer en moi. Et comme les lambeaux de bandelettes qui étaient autour de Lazare, Dieu me disait « Lazare, sors et déliez-le ». Et j'ai commencé à lire l'évangile de Jean d'une autre manière. Et j'ai commencé à comprendre des choses que ma théologie ne me permettait pas. Parce que j'avais des lunettes. On a ça par rapport à la Bible. Tous ici, on a des lunettes. On a ça par rapport à l'expérience de Dieu. On a ça par rapport aux uns et aux autres, comment on se regarde. Le Saint-Esprit nous dit ce matin, laisse-moi retirer tes lunettes. Je veux que tu regardes les autres avec mes lunettes. Je veux que tu lises la Bible avec mes lunettes. Je veux que tu oublies ce que tu penses savoir, parce que si tu crois que tu sais quelque chose, tu ne sais pas encore comment il faut savoir. Parce que je suis celui qui te conduit dans toute la vérité. Mais souvent je souffle sur toi et tu ne le sais pas parce que tes voiles ne sont pas levées, parce que ton ancre est jetée et que tu restes là où tu es, tu veux rester là dans ta zone de confort. J'ai quelque chose de beaucoup plus grand pour toi. Ce sont des choses que tes yeux n'ont jamais vues, que tes oreilles n'ont jamais entendues, qui ne sont même jamais montées à ton cœur, mais que j'ai réservé pour toi parce que tu m'aimes. Je suis celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer ou demander. Je veux te faire sortir des sentiers battus. Je veux faire de ta communauté, de ta vie et de ta famille quelque chose que tu ne peux même pas soupçonner. Mais n'aie pas peur, je sais ce que je fais, dit le Saint-Esprit. N'aie pas peur, j'ai un plan spécifique pour toi qui ne ressemble pas à celui des autres. C'est du sur-mesure, n'aie pas peur. Avez-vous remarqué que chaque fois que Dieu se manifeste dans les Écritures, quasiment imparablement, il commence par « ne crains point ». Pourquoi est-ce qu'on a tellement peur de Dieu ? Parce que Dieu est souverain et il ne fait que ce qu'il veut et il est très déstabilisant et très déconcertant. Plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu des expériences avec le Saint-Esprit où j'ai cru que j'allais mourir. J'étais sûr à 100% que j'allais bientôt mourir tellement c'était fort. Parce que le Saint-Esprit, je crois vraiment, mes amis, dans nos vies, il se retient tellement. Il se retient pour ne pas nous emmener tellement loin qu'on craque. Nous avons un Dieu infini, nous avons un Dieu tellement grand et tellement puissant qui peut faire infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser et demander. Et nous, on reste dans le cadre du connu, du sécurisant. Le message de ce matin, c'est que Dieu nous dit de ne pas avoir peur. Connaissez le Père, connaissez le Fils, ouvrez les portes au Saint-Esprit. C'est lui qui va transformer votre vie de gloire en gloire. C'est lui qui va métamorphoser en vous des choses qui, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas pu l'être. Oui, tu as la vie éternelle. Oui, l'Esprit de Dieu habite en toi. Oui, tu as été régénéré, mais tu n'as pas vécu le millionième de ce qu'il y a en réserve dans le royaume de Dieu pour nous. Parce que Dieu désire que nous connaissions les hauteurs et les largeurs et les profondeurs et les longueurs de l'amour de Dieu. Et ça dépasse l'entendement. Et il nous dit, ouvre les portes. Ouvre les portes. Sois au moins curieux des possibilités qui s'offrent à toi. Je veux te faire sortir des sentiers battus. Je veux que tu découvres la seigneurie de mon esprit, dit Dieu, qui souffle où il veut, comme il veut, quand il veut, et que tu ne pourras jamais contrôler. Si c'est ça que tu veux, si c'est contrôler que tu veux, le Saint-Esprit, ce n'est pas pour toi. Mais si c'est pour être comme un voilier sur l'océan, où nous remontons l'ancre qui était là au fond depuis trop longtemps, où on ose un petit peu lever les voiles, je ne vous demande pas de lever toutes les voiles d'un coup, hein, mais de commencer à lever un petit peu les voiles. Vous allez voir que tout de suite, quand vous allez commencer à vous exposer à Dieu et commencer à l'adorer, commencer à vous rendre vulnérable, commencer à retirer les couches de protection et les masques que nous portons tous, et de dire « Seigneur, je viens comme je suis, je m'expose à toi de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force ». Seigneur, j'ai peur, mais viens au secours de ma peur. Fortifie ma foi pour que je n'aie plus peur. Je veux entrer dans la plénitude des choses de ton esprit. Il va se passer quelque chose. Vous allez commencer à vivre une expérience approfondie. Et je vous promets qu'à un moment donné, ça va vous déstabiliser et vous inquiéter et vous déconcerter et peut-être même un peu vous faire peur. C'est pas grave. La bonté et la douceur de l'esprit va vous rassurer et il va vous dire « N'aie pas peur, je suis en train de prendre le contrôle dans ta vie. Tu souffrais parce que tu avais le contrôle. Maintenant, laisse-moi prendre le contrôle, laisse-moi être Seigneur. » C'est le même Jésus qui est au ciel, qui désire régner dans nos cœurs au travers du Saint-Esprit. Et nous aimons bien qu'il soit là-haut, mais il nous dérange quand il descend. Et qu'il manifeste sa présence autour de nous. Église de Couillet, Église de Courcelles, et tous les autres sur Internet qui nous écoutent. C'est la fête du Saint-Esprit aujourd'hui. Allons-nous encore lui demander 36 choses ? Ou est-ce que nous allons enfin le laisser faire ce qu'il veut ? Baissons nos boucliers. Rendons-nous vulnérables. N'ayons pas peur du silence. Dépouillons-nous de tout ce qui vient occuper l'espace qu'il aimerait bien occuper. Levons nos voiles, peut-être avec prudence parce qu'on est peureux, levons nos voiles quand même, relevons l'ancre du fond de l'océan et peut-être comme Pierre, « Seigneur, si c'est vraiment toi, parle-moi et j'irai à ta rencontre sur la mer. » Peut-être que c'est à petits pas, peut-être que c'est avec hésitation, c'est pas grave. Tant que tu vas dans la bonne direction et que tu commences à t'exposer au Saint-Esprit, très vite tu vas te rendre compte que c'est bon, que c'est juste, que c'est vrai, que c'est agréable, que c'est le même esprit que celui qui ressuscita Christ d'entre les morts et qui est en train de gonfler tes voiles pour t'emmener vers des horizons lointains que tu ne soupçonnes pas. Tu n'y arriveras pas en pagayant. L'océan est trop rude. Tu as besoin des vents du Saint-Esprit qui t'emmèneront là-bas. Tu as besoin de la boussole de la parole de Dieu. Et tu as besoin de Jésus à la barre. Mais tu as besoin des vents du Saint-Esprit. Alors s'il te plaît, si tu entends ma voix ce matin, je plaide avec toi de la part de l'Esprit de Dieu. Laisse-moi faire. Laisse-moi souffler. Laisse-moi agir. Et je vous invite à la maison et vous qui êtes ici dans la salle, si vous l'avez à cœur, et seulement si vous vraiment vous le pensez, de simplement fermer les yeux un instant et d'ouvrir votre cœur à l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Nous aspirons à la liberté. Mais cette liberté, elle ne se trouve que dans l'Esprit du Seigneur. Alors, Saint-Esprit, je te prie de toucher et de bénir chacun, chacune. Nous te remercions pour ta présence, pour ta fidélité. Tu es le consolateur, notre guide, notre avocat, notre défenseur, notre soutien, notre ami, notre aide. Nous allons apprendre à dépendre de toi. Et Saint-Esprit, nous voulons te dire oui ce matin. Oui à tout ce que tu veux. Nous signons un document vierge, nous ne savons pas ce que tu vas faire. Mais Saint-Esprit, nous voulons te faire confiance et dire oui. Parce que de toute façon, nous savons que tout ce que tu cherches à faire, c'est de glorifier Jésus dans nos vies. Saint-Esprit, on veut laisser nos plans de côté et nos projets et nos idées préconçues et admettre que certainement tu sais mieux que nous ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alors Saint-Esprit, nous voulons te demander pardon pour chaque fois où nous t'avons attristé, parfois sans le vouloir, parfois volontairement. Même des fois on a éteint ton feu, on t'a résisté. On veut te demander pardon et en même temps on veut te remercier pour ta patience parce que tu ne nous as pas abandonnés. Tu es encore là, présent avec nous tous les jours. Saint-Esprit, merci parce que tu es miséricordieux, comme le Père et le Fils. Et ce matin, avec le Père et le Fils, nous te rendons la même adoration et la même gloire. Tu es à l'honneur aujourd'hui, Esprit de vérité, Esprit de sainteté. Reçois notre gratitude qui monte du plus profond de notre cœur. Que serions-nous sans toi ? Nous ne connaîtrions rien du Père et rien du Fils sans toi. Nous ne serions même pas sauvés sans toi. Et nous serions errants sur cette terre dans un vide absolu, un désespoir complet sans toi. Mais tu es le feu qui brûle au fond de nos cœurs maintenant. Tu nous communiques la foi, l'espérance et l'amour. Tu fais de nous une armée qui se lève pour t'obéir. Tu accomplis sur cette terre tout ce que Jésus déclare dans les cieux. Saint-Esprit, trouve en moi, trouve en nous des bateaux qui sont dociles. Trouve en nous des cœurs qui sont ouverts. Trouve en nous des voiles déployées et des ancres levées. Trouve en nous des cœurs sincères et humbles et contrits. Et s'ils ne sont pas là, Seigneur, donne-nous cette grâce. Donne-nous cette sensibilité à toi. Tu es comme le vent. Mais nous n'avons pas tous la même sensibilité. Donne-nous, Seigneur, cette sensibilité à ton cœur, que nous puissions être conduits dans toute la vérité. Nous te prions. Père Céleste, nous te remercions d'encore déverser sur nous la grâce du Saint-Esprit. Nous allons te laisser nous conduire, Seigneur, concrètement, expérimentalement, dans toutes les choses que tu as préparées d'avance, hors des sentiers battus, pour être l'Église que ton cœur désire, le peuple embrasé qui porte ton nom jusqu'aux extrémités de la terre. Viens, Esprit de Dieu, souffle des quatre vents sur nos morts et qu'ils revivent, et qu'une grande armée se lève, Esprit de Dieu, qu'une grande armée innombrable se lève, prenant place chacun à sa place, chacun dans sa différence, chacun dans son excellence, pour faire avancer le royaume de Jésus sur cette terre, jusqu'à ce qu'il vienne. Saint-Esprit, mets en nous la prière qui est la tienne, pour que l'épouse et l'Esprit disent « Viens, viens bientôt, Seigneur Jésus ». Et que détachés des choses illusoires et passagères de ce monde, nous soyons attachés vraiment à Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'adorons et nous te glorifions et nous te remercions. Amen. Amen.